Vous êtes sur RTL. RTL Midi, le 12h, Pascal Pro, Céline Landreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. Heureux de retrouver Céline Landreau cette semaine, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous, plaisir évidemment à partager. Le gouvernement peut-il tomber ce soir à l'Assemblée nationale? Deux motions de censure seront votées en fin d'après-midi, conséquence du recours au 49-3 pour faire passer la réforme des retraites. Réforme toujours très contestée sur le terrain avant la nouvelle grande journée de mobilisation de jeudi. Les grèves se poursuivent dans les raffineries notamment et il devient par endroits bien compliqué de faire le plein. On le verra dans quelques minutes à Marseille. La crise politique semble profonde, d'où cette question du jour sur notre site RTL.fr. Réforme des retraites, Emmanuel Macron doit-il prendre la parole rapidement? Une contestation qui pourrait aussi perturber les épreuves du bac aujourd'hui. Car oui, elle commence ce lundi pour plus de 500 000 élèves de terminale. On vous expliquera pourquoi si tôt dans une dizaine de minutes. À suivre aussi dans ce journal, les places boursières encore fébriles malgré le sauvetage du Crédit Suisse hier. Et puis la fin peut-être d'une époque en tennis. Raphaël Nadal sort pour la première fois depuis 18 ans du top 10.
À 12h20, RTL Midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Nous sommes le 20 mars et c'est le printemps.
Et on vous dira pourquoi c'est bon pour l'esprit de faire un grand ménage à cette saison. Juste avant 13h, votre rendez-vous culture LVT Midi. Le 40e album d'Astérix, L'Iris Blanc, est attendu en octobre. Mais Monique Younes vous en parle déjà.
Autant de sujets, évidemment, dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans Les Auditeurs ont la parole. C'est assez curieux, mais sachez-le, aujourd'hui, c'est également la journée mondiale du bonheur. C'est quoi être heureux pour vous?
C'est de retrouver Louis Baudin, par exemple, pour la météo. Bonjour.
Merci,
Louis.
Merci Céline, bonjour.
D'abord, on le rappelle, on le disait, c'est le printemps ce soir, Louis.
Oui, c'est le printemps ce soir, à 22h24 exactement. Le soleil sera juste à la verticale de l'équateur et donc ensuite, on rentrera dans cette saison.
Qu'est-ce qui nous attend alors pour ce dernier après-midi d'hiver, Louis?
Un petit air de printemps quand même, avec un peu plus de soleil et un peu moins d'averses temporairement.
Merci Louis, la météo complète évidemment à la fin du journal.
RTL Midi.
Le gouvernement peut-il être renversé cet après-midi, sacrifié sur l'autel de la réforme des retraites? Ce n'est pas la première fois depuis le début du quinquennat qu'Elisabeth Borne a recours au 49-3, mais la première fois que l'on s'interroge autant sur le nombre de députés prêts à voter une motion de censure, en l'occurrence la motion transpartisane du groupe Liotte. Bonjour Marie-Bénédicte Allaire.
Bonjour.
Vous êtes en direct de l'Assemblée nationale pour RTL. Alors il faudrait 287 votes pour que le gouvernement tombe, 287 car il y a plusieurs sièges vacants actuellement à l'Assemblée. Et tous les yeux se tournent évidemment vers les LR, Marie-Bénédicte, car ce sont eux qui pourraient faire basculer le scrutin.
Ben oui, parce que sans une trentaine de voix LR, ça ne passe pas. Or, en admettant que tous les autres groupes d'opposition, Liotte, NUPES, RN+, les quelques non-inscrits, votent la censure, il manquerait encore 25 voix. Et on sait déjà qu'une petite poignée de ces députés-là ne sera pas au rendez-vous. Donc ce matin, de l'avis des députés LR prêts à voter la censure, qui ont sondé leurs camarades, au maximum 17 à 18 députés LR vont voter la motion Liotte, ça devrait donc se jouer à 10-15 voix près, estime-t-il. Il faut rester prudent. Mais ces députés ne pensent pas pouvoir faire tomber le gouvernement. Ils veulent lui donner un coup de semonce. Elisabeth Borne, comme la chef de file des députés Renaissance, les conforte d'ailleurs dans leur choix en faisant du vote sur la motion de censure un vote sur les retraites. Reste la seconde motion, celle de Marine Le Pen. Elle recueillera les 88 voix RN+, celle d'une petite poignée de LR, mais elle a donc encore moins de possibilités d'être adoptée.
Marie-Bénédicte Allaire à l'Assemblée nationale pour RTL. Des députés, les Républicains au centre du jeu, vous l'avez compris, et que Marine Le Pen, la chef de file des députés RN, a tenté de convaincre ce matin sur RTL.
Tout le monde devrait voter cette motion de censure, y compris un certain nombre de députés En Marche d'ailleurs, pour dire au gouvernement, on ne peut pas utiliser une méthode qui est le 49-3, alors même que l'on est sur une réforme aussi importante, alors même que trois quarts des Français y sont opposés, avec cette brutalité. Il faut respecter le jeu démocratique. Soyez une majorité à l'Assemblée, soit il n'y en a pas. Là, en l'occurrence, il n'y en avait pas. Et le gouvernement joue avec des allumettes dans une station-service. Même si vous étiez pour, vous devez voter la motion de censure parce qu'il en va du respect du peuple français.
Marine Le Pen avec Amandine Bégaud ce matin sur RTL. Marine Le Pen qui a par ailleurs fait savoir que même s'il y avait dissolution de l'Assemblée nationale à l'issue de cette crise politique, que de nouvelles élections législatives plaçaient le RN en tête, elle n'irait pas à Matignon. Elle n'exclut pas, en revanche, de se présenter une quatrième fois à l'élection présidentielle.
Et dans le même temps, la mobilisation se poursuit.
À Rennes, des blocages ont rendu ce matin encore la circulation très compliquée sur la rocade et par capillarité tout autour de l'agglomération. Blocages qui seront d'ailleurs reconduits d'après les manifestants tous les matins jusqu'à jeudi. Les raffineries, elles, sont toujours bloquées. Perturbations aussi à la SNCF. 4 TGV sur 5 et 2 tiers des TER maintenus aujourd'hui. 6 intercités sur 10. Ça reste compliqué également sur les RER avec par exemple seuls 4 trains sur 10 sur les lignes D et R.
Les marchés financiers toujours inquiets malgré le rachat hier du Crédit Suisse par la banque UBS.
La plus grande banque helvète a en effet racheté sa concurrente, une opération sauvetage alors que Crédit Suisse risquait la banqueroute et menaçait l'équilibre des marchés financiers tout entier. Bonjour Pierre Herbulot.
Bonjour.
Cette opération a été annoncée hier, elle visait à rassurer tout le monde. Les bourses ont rouvert comme d'habitude ce matin, est-ce que l'objectif est atteint ?
Non, le calme n'est pas revenu ce matin sur les marchés financiers. La Bourse de Paris, comme toutes celles d'Europe, a ouvert dans le rouge. Le CAC 40 a fait le yo-yo ce matin, mais reste finalement globalement stable. En revanche, les grandes banques françaises cotées morflent carrément. Moins 8% pour la BNP, moins 7% pour la Société Générale, moins 4% pour le Crédit Agricole et AXA. Bon, pour vous donner un élément de comparaison, le titre du Crédit Suisse a lui dégringolé de 62%. Même si l'échelle est différente, c'est le signe malgré tout d'une fébrilité. Le rachat rapide de la banque suisse par UBS a pourtant été salué, tout comme l'action coordonnée des banques centrales du monde entier pour faciliter les transactions en dollars ce week-end. C'est un message que l'on pourrait traduire par « Rassurez-vous, le système bancaire est solide, tout va bien se passer ». Le problème, c'est que tous les établissements bancaires ont en tête la rapidité avec laquelle le Crédit Suisse est tombé et que les investisseurs ont perdu plus de 15 milliards de francs suisses dans le processus.
On rappelle quand même, Pierre, à nos auditeurs qui seraient inquiets, que l'État garantit aux Français une partie de leur épargne.
Oui, via le fonds de garantie des dépôts et de résolution. En gros, lorsqu'une banque ne peut plus faire face à ses engagements en France, l'État compense à hauteur de 100 000 euros. Ça s'additionne, hein. Ça veut dire que si vous avez des comptes dans plusieurs banques, c'est 100 000 euros à chaque fois. Encore faut-il les avoir.
Pierre Herbulot, merci beaucoup.
RTL Midi. Et puis, vous le disiez dans les titres, la fin d'un cycle peut-être dans le monde du tennis.
Pour la première fois depuis 18 ans, Rafael Nadal, le roi de Roland-Garros, n'est plus dans le top 10 mondial. Eric Silvestro, il est aujourd'hui 13e au classement ATP. Ça sent la fin de règne, mais quel règne quand même.
Oui, pour un joueur dont les qualités se limitaient pour certains à des capacités physiques hors normes et qui faisait des chèques en blanc sur sa santé, Dixit André Agassi, sa longévité est la plus belle des réponses. Nadal avait intégré le top 10 le 24 avril 2005. À l'époque, l'OL caracolait en tête de la Ligue 1 après son titre à Barcelone contre Ferrero, qui est aujourd'hui l'entraîneur d'ailleurs de Carlos Alcaraz, titré la nuit dernière à Indian Wells et ne l'a plus jamais quitté. 6538 jours d'affilée, 912 semaines. Malgré de nombreuses blessures, c'est évidemment un record chez les hommes, puisque le deuxième derrière Nadal, Jimmy Connors, ne compte que 789 semaines consécutives dans le top 100, mais pas un record absolu, puisque Martina Navratilova, elle, a passé les 1000 semaines dans le Gotha de la WTA, un record qui sera peut-être tout de même plus facile à battre que ses 14 titres à Roland-Garros. Encore que Carlos Alcaraz, à nouveau numéro 1 ce lundi, devra attendre le 24 octobre 2039 s'il veut faire aussi bien que Nadal dans le top 10.
2039, c'est loin quand même.
Et 18 ans dans le top 10, c'est fort.
Merci Eric Silvestro. Un mot de football aussi, puisque les Bleus arrivent actuellement à Clairefontaine. C'est le début du rassemblement en vue des deux premiers matchs des éliminatoires de l'Euro 2024. Ce sera face aux Pays-Bas vendredi et en Irlande lundi prochain. La météo à présent, on vous retrouve comme promis Louis Baudin pour ce dernier après-midi hivernal, mais déjà un brin printanier.
Exactement, parce que nous aurons du temps sec et plutôt ensoleillé dans la plupart des régions. Parce que quand même, il y aura quelques exceptions dans l'extrême nord-ouest, un peu plus de nuages, voire quelques pluies. C'est le cas en ce moment sur la Bretagne, sur le Cotentin et plus généralement sur ce littoral de la Manche. Nous aurons un risque d'averse tout au long de l'après-midi avec un ciel plus nuageux. Ailleurs, donc, du temps sec avec parfois très belles éclaircies, notamment dans la moitié sud. À noter tout de même de l'instabilité possible sur le relief corse. Et puis les températures cet après-midi, à peu près de saison, entre 12 et 15 degrés dans la moitié nord, 15 à 19 degrés dans la moitié sud. On ira même jusqu'à 20 degrés à Perpignan.
Merci Louis.
RTL Midi, un jour chez vous.
Est-ce qu'on va manquer d'essence, de carburant, notamment dans le sud de la France ?
On va aller poser la question à Marseille, à Hugo Hamelin. Bonjour Hugo.
Bonjour.
Conséquence du blocage de la raffinerie de la Med, l'essence commence à se raréfier sérieusement aux pompes dans votre région. On estime que 10 à 15% des stations sont en pénurie actuellement d'au moins un carburant, Hugo.
Oui, c'est ça, on en manque déjà ici d'essence à Marseille. Une station sur 6, une station sur 7 est partiellement ou totalement fermée avec des files d'attente interminables pour les autres, surtout dans le centre-ville. Et c'est justement là où je me trouve, station du boulevard Sacchini, où c'est un petit peu le bazar. La police municipale tente de réguler l'énorme bouchon qui s'est créé depuis le début de la matinée à l'entrée de la station. Les automobilistes klaxonnent, les scooters, les motos qui passent devant tout le monde. On proteste aussi contre ceux qui remplissent des jerrycans. Et puis on voit des camions de chantier, des véhicules de médecins, des taxis qui vont démarrer leur matinée de travail avec une à deux heures de retard. J'ai même vu des équipages Vigipirate qui se retrouvent bloqués dans la file d'attente en attendant de remplir leur réservoir.
Et pourtant, malgré la galère, les automobilistes semblent comprendre la mobilisation.
Oui, en tout cas, une grande majorité des automobilistes bloqués avec qui j'ai pu parler ce matin se montrent compréhensifs, voire plus, avec le mouvement syndical qui bloque en ce moment les raffineries contre la réforme des retraites. Écoutez Ryan et François.
1h40 à peu près que je suis là. Des côtés, c'est un mal pour un bien ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de faire ça pour bloquer, ça a des répercussions sur nous, mais c'est pas... On peut pas marronner en quelque sorte, parce que ça nous fait d'un côté du bien. Ils sont en train de faire ça aussi pour nous. Donc bon, on peut pas tant leur en vouloir que ça.
Okay. Ben ils ont raison, il faut bloquer le pays, même si ça me met en galère. Il vaut mieux 15 jours que 3 ans, parce que quand on est derrière les bureaux, c'est pas méchant de bosser. Mais quand on est sur le chantier, là, le marteau-piqueur, c'est compliqué, quand on n'arrive plus à tenir debout. Eh oui. Et nous, quand on sera bloqué, ben vraiment bloqué, ben on sera à la maison, on va rien faire. Vive la France!
Voilà, des automobilistes à la recherche de gasoil pour aller travailler, hein, c'est la raison numéro 1 évoquée. Donc c'est un début de pénurie de carburant qui est accentué aussi par la peur du manque, hein, il faut le dire. La moitié des automobilistes qui font la queue aujourd'hui, ils ont la moitié du réservoir qui est plein. Mais forcément, comme le mouvement est parti pour durer au moins toute la semaine, ça va être compliqué. Surtout qu'il y a d'autres raffineries et dépôts pétroliers qui promettent de rejoindre le mouvement.
C'est ça, la prévoyance des automobilistes accentue évidemment les files d'attente aux stations. Merci beaucoup Hugo Hamelin, en direct donc de Marseille pour RTL.
C'est la crainte de la pénurie parfois qui crée la pénurie. Vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. Dans un instant, le bac. Vous avez peut-être été surpris comme moi d'apprendre qu'on passait le bac le 20 mars. Tout fout le camp. Mais Marie Guerrier va nous expliquer pourquoi et on va essayer de comprendre si c'est bien ou pas. A tout de suite.
Céline Landreau, Pascal Pro. RTL midi jusqu'à 13h. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi.
C'est pas une décision qui est facile à prendre. On parle de nos élèves qu'on voit toute l'année, qu'on va revoir aussi dans les prochains jours. Mais il y a des endroits où les collègues vont se mettre en grève parce qu'il y a une colère très forte qui s'est exprimée après le 49-3. On appelle à faire la grève des surveillances, mais bien évidemment, on n'appelle pas à bloquer l'accès des élèves au centre d'examen.
Sophie Vénétité, secrétaire générale du SNES-FSU, syndicat majoritaire dans les lycées, invitée d'RTL ce matin, alors que 536 000 élèves de terminale commencent à passer le bac aujourd'hui, épreuve de spécialité pour les filières générales et technologiques. Bonjour Marie Guerrier.
Bonjour.
Spécialiste éducation ici à RTL. Bon, les épreuves du bac qui commencent en pleine mobilisation contre la réforme des retraites, est-ce qu'il y a un vrai risque qu'elles soient perturbées d'abord ?
Il va y avoir localement des piquets de grève, hein. Il y a 2600 lycées centres d'examen. Il y a des professeurs qui ont l'intention de venir tracter devant l'entrée des lycées. Ça il ne s'agit pas de blocage, on vient de l'entendre. Il n'est pas question d'empêcher l'accès des salles d'examen aux élèves. C'est montrer que les enseignants sont toujours mobilisés contre la réforme des retraites. Ils le seront particulièrement jeudi, le jour de la mobilisation nationale. En 2019, il y avait déjà eu une grève au moment des épreuves du bac et pas de blocage des élèves. Il y avait même des enseignants grévistes qui avaient distribué des viennoiseries aux candidats qui rentraient dans les lycées. Alors, il va y avoir aussi des professeurs grévistes pour la surveillance. On convoque les professeurs pour qu'ils viennent surveiller. L'éducation nationale a convoqué davantage de surveillants qu'il n'en faut, en fait, pour pouvoir justement remplacer les professeurs qui seraient grévistes. Alors, s'il y a des blocages durs, potentiellement, par endroit, ce serait plutôt par des éléments extérieurs à l'éducation nationale. Et puis, si les élèves sont un peu en retard parce qu'ils ont été bloqués sur une route ou bloqués par le rail, il y a une autorisation maximum d'arriver une heure en retard et puis cette heure pourra être récupérée à la fin de l'épreuve.
Alors, le bac qui commence le 20 mars, ça veut dire qu'il y a 6 6 mois de cours, tu enlèves les 45 jours de vacances, ça fait que 4 mois de cours depuis le mois de septembre. C'est vrai qu'on peut être étonné pour des matières aussi importantes que l'histoire, les
4 mois de cours, vous calculez quand même très serré, Pascal. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, ça fait pas 4 mois.
Mais non, mais il y a 45 jours de vacances.
Oui, certes. Alors,
ça fait 4 mois.
Sachant que les épreuves qui ont lieu ces jours-ci sont basées sur un programme qui va jusqu'au mois de mars. Et ensuite, les cours reprennent.
Mais alors, l'épreuve est passée. Donc, vous allez apprendre à des enfants alors qu'ils ne seront pas interrogés dessus.
Ça n'est pas terminé, bien sûr que si. Le grand oral qui se tiendra entre le 19 juin et le 30 juin est basé sur les spécialités des élèves. Donc, ils vont continuer à travailler ces spécialités en vue du grand oral. Puis, il y a aussi les cours de philo. L'épreuve de philo a lieu le 14 juin, donc il faut aller en cours de philo. Et puis il y a toutes les matières du tronc commun. Le programme n'est pas terminé en histoire géo, en langue, en enseignement scientifique. Et les notes de ce troisième trimestre-là, qui va durer jusqu'au mois de juin, elles comptent dans le contrôle continu. Et le contrôle continu de première et de terminale, troisième trimestre inclus de la classe de terminale, compte dans le bac. 40% de contrôle continu dans la note totale du bac. Donc, évidemment, il n'y a aucune raison objective de ne pas retourner en cours et de ne pas travailler après les épreuves de spécialité, sauf à ne pas vouloir préparer correctement ses études supérieures.
On comprend donc que les lycéens ne sont pas en vacances à partir de la fin de la semaine, Marie. En quoi elles sont si importantes, ces épreuves de spécialité qu'ils passent actuellement ?
C'est le cœur de leur bac. Deux spécialités qui pèsent donc pour un tiers de la note pour obtenir le diplôme. Avec la réforme, vous vous rappelez, il n'y a plus de filière. Les élèves choisissent des spécialités. C'est ça qui fait leur bac. Alors, des spécialités, ils peuvent avoir des doublettes en terminale, par exemple maths physique ou maths SVT ou maths sciences économiques et sociales. Alors, pourquoi je dis maths ? Parce qu'il y a quand même encore un maximum d'élèves qui en prennent, mais ça peut être humanité, philosophie, littérature, avec par exemple histoire, géographie, sciences politiques, géopolitique. Voilà, c'est des doublettes de spécialités. Ils sont censés faire des choix de doublettes qui servira pour leurs études. Et d'ailleurs, l'éducation nationale constate avec la réforme que les choix de spécialité des élèves, eh bien, ils sont très cohérents avec ensuite la poursuite d'études.
Bon, je vous fais confiance, vous êtes spécialiste de l'éducation, vous trouvez que c'est plutôt finalement bien pour les élèves.
Alors,
à vous entendre.
Mais parce qu'il y a, une chose très importante, pourquoi en mars ?
Oui.
C'est la première fois qu'elles ont lieu en mars, parce qu'en fait, le calendrier de la réforme prévoyait des épreuves en mars pour que les notes obtenues dans ces spécialités, qui je le répète sont le cœur du bac, puissent figurer dans le dossier des élèves sur Parcoursup. Et donc, les formations de l'enseignement supérieur vont pouvoir se baser, mais pour la première fois, ça n'a jamais existé, sur les notes obtenues au bac et non pas sur le contrôle continu et le livret scolaire.
Donc c'est mieux pour la sélection. Les meilleurs seront avantagés par cela.
Alors,
c'est
les
ce
meilleurs,
que je comprends.
En tout cas,
les meilleures notes,
et c'est ça.
C'est le même barème pour tout le monde.
Exactement.
C'est plus égalitaire.
C'est une épreuve nationale qui va se dérouler cet après-midi, demain après-midi, avec des corrections harmonisées pour que tout le monde soit sur un pied d'égalité. J'ai rencontré des élèves qui postulent dans des classes préparatoires pour l'année prochaine. Eh bien, eux, ils sont contents de pouvoir être jugés par l'enseignement supérieur sur les notes qu'ils auront obtenues au bac, parce qu'ils sont également sur un pied d'égalité et non pas sur les notes de leur bulletin scolaire où ils pourraient potentiellement être notés plus sévèrement que dans un autre lycée.
Merci beaucoup Marie Guerrier, spécialiste éducation pour RTL.
Dans un instant, c'est le printemps, figurez-vous, et on va faire le ménage de printemps. C'est une pratique ancestrale. On va être avec un psychologue qui va nous dire si c'est une bonne chose de tout virer chez soi. À tout de suite.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. RTL Midi, votre vie.
De votre vie, bien sûr, et vous avez reconnu Vivaldi. L'info, c'est aussi ce qui fait votre quotidien. Et c'est le printemps.
Bah oui, c'est la saison qu'on a choisie dans les quatre saisons, bien puisque sûr. C'est ce soir le printemps. Il y a une certaine cohérence dans tout ça, Pascal.
Exactement, tout ça est réfléchi.
Très en amont. Et faire le ménage de printemps, c'est une pratique, vous le disiez juste avant la pause, ancestrale. On en parle avec Patrick Estrade aujourd'hui. Bonjour Patrick Estrade.
Bonjour, bonjour.
Vous êtes psychologue, psychothérapeute.
Thérapeute, c'est ça, écrivain.
Parce qu'au-delà conférencier. Alors, on ne va pas vous demander à vous des conseils très pratico-pratiques pour vider les armoires et dépoussiérer notre intérieur. On voulait parler plutôt de l'aspect psychologique du ménage de printemps, la symbolique derrière cette tradition.
Ben oui, c'est génial en fait. Les saisons, ça nous indique vraiment des rituels et le printemps, comme vous le disiez à l'instant, c'est ça. C'est la sève qui monte, c'est l'énergie vitale aussi qu'il y a en nous et tout cela nous invite à changer. Et le changement concerne souvent la maison. Vous savez, j'ai toujours dit que la maison, c'est le ventre de la mère. Donc, à quoi est-ce qu'on touche quand on touche à la maison? C'est ça dont nous allons parler, en fait, avec vous.
Ben oui, mais alors, il faut changer quoi? Parce que moi, je veux bien qu'on ne parle pas concrètement de certaines choses, mais il faut changer son canapé, déjà. On a des problèmes d'argent en France. Il faut changer ses draps, il faut changer ses tableaux. Qu'est-ce qu'il faut changer?
Non, c'est le grand ménage du printemps, oui. N'est-ce pas? C'est-à-dire que, alors, après tout, on peut aussi décider de changer le canapé de place, mais la question qui est vraiment plus intéressante, c'est que, en fait, faire le ménage au printemps, c'est un rituel qu'on retrouve dans plusieurs traditions, y compris dans la religion juive.
Mais j'entends bien, mais en quoi ça consiste? Est-ce qu'il faut aussi se débarrasser de ses amis, pourquoi pas, de son amoureuse? Il y a tout ça dans le ménage de printemps. Est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut repartir à zéro?
Non, on commence juste par la maison et on finit par la maison. On ne va pas se débarrasser des amis. Ça, on les garde, hein, surtout s'ils sont bons. Non, mais voilà, faire le ménage, c'est-à-dire vraiment faire le ménage. Alors dans la religion juive, ça va jusqu'au fait d'enlever toutes les miettes qui se trouvent au fond des placards. Vous voyez, faire en sorte que on puisse aller vers un renouveau. Le printemps, c'est un renouveau.
Donc on sort tout de la cuisine et on nettoie tout et on remet tout en place.
Exactement,
on sort tout, le réfrigérateur, pareil, tout.
Voilà, exactement. Et donc, parce que, vous voyez, une chose intéressante à dire, c'est que quand on agit sur sa maison, on agit sur soi-même. Vous voyez, il y a un moment donné où trop de désordre...
Ça pollue l'esprit, c'est ça? Il faut faire place nette?
Exactement, il faut faire place nette.
Enlever les miettes. Et
voilà. Dans un de mes amis architectes me disait que dans un intérieur encombré, les sons circulent mal, voyez-vous. Et moi, je dis que si l'espace respire, notre corps et notre psyché respirent aussi. Donc, c'est vous dire que ça, c'est quelque chose qui me semble très important. Une deuxième chose à dire aussi, c'est que y a un philosophe italien qui s'appelait Gramsci qui disait la crise, c'est quand le vieux ne veut pas mourir et que le neuf ne peut pas naître. Alors, il s'agissait d'une crise.
Donc, faut tuer les vieux.
Pardon ?
Donc, faut se débarrasser des vieux, c'est ce que vous nous dites.
Se débarrasser des vieux. Il faut se débarrasser du vieux et mettre du neuf à la place.
Ah oui, donc faut quand même jeter. Parlons des habits. C'est intéressant, les habits. Quelque chose que vous n'avez pas porté depuis un an ou 18 mois. Il y a peu de chances, peut-être, que vous le reportiez. Peut-être à ce moment-là que ce pantalon ou cette chemise, vous pouvez la donner ou la jeter.
Oui, alors là, on fait appel à autre chose, n'est-ce pas? C'est-à-dire que je crois que c'est Sartre qui disait que la possession est une amitié entre l'homme et la chose. Eh bien, nos possessions sont nos amis et nos habits sont en premier lieu nos amis. Mais voyez-vous, comme on jette pas un ami comme ça, on ne jette pas non plus un habit comme ça. C'est-à-dire que généralement, le rituel habituel, c'est que ça passe de votre armoire principale à l'armoire secondaire. De l'armoire secondaire, ça passe à la cave ou au grenier. Au grenier, ça passe à... Et là, on va voir, est-ce que les enfants vont s'amuser avec en se déguisant? Est-ce qu'on va faire un vide-grenier? Est-ce qu'on va se débarrasser? Mais voyez-vous, de façon élégante, quoi. Jeter à la poubelle, ça me semble pas très élégant.
Non, c'est pour ça qu'on pouvait le donner.
Voilà, exactement. Le donner ou faire un vide-grenier, ce qui nous conduit du reste à faire connaissance avec d'autres personnes. Et souvent, on va sentir la personne à laquelle un vêtement peut être destiné. On se dit, tiens, cette personne, je suis sûr qu'elle va tenir, elle va prendre soin de ce vêtement.
Donc ce qu'on comprend en tout cas, c'est que le début du printemps, c'est le bon moment pour faire le tri et s'aérer l'esprit, même chez soi, en faisant d'une certaine manière place nette. Merci beaucoup,
oui,
Patrick.
Ça, exactement.
Merci beaucoup, Patrick Estrade. Je rappelle que vous êtes psychologue et psychothérapeute. Merci encore.
Dans une seconde, l'info revient avec cette question du jour. Est-ce que la motion de censure sera votée? A priori, il manque une vingtaine de voix pour qu'elle soit adoptée. A tout de suite.
Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi jusqu'à 13h. RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, merci de rester avec nous si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL Midi, il est 12h30.
RTL Midi, le 12h30, Céline Landreau et Pascal Pro.
Et Céline Landreau est de retour aujourd'hui et c'est le moment de sa grande édition.
Combien seront-ils cet après-midi? Combien de députés voteront pour renverser le gouvernement d'Elisabeth Borne après l'utilisation par l'exécutif du 49-3 sur la très explosive réforme des retraites? Alors que la colère se manifeste toujours dans le pays, les actions se multiplient sur l'ensemble du territoire avant une nouvelle grande journée d'action jeudi. Des grèves qui se poursuivent dans les transports, dans les raffineries, avec déjà des débuts de pénurie dans certaines stations-service. Cette crise politique, c'est l'objet de la question du jour sur notre site rtl.fr. Réforme des retraites, Emmanuel Macron doit-il prendre la parole rapidement? C'est évidemment le principal titre que nous développerons tout au long de la demi-heure qui vient. Mais dans ce journal également, la visite de Xi Jinping, le président chinois à Moscou, premier voyage d'État en Russie depuis le début de la guerre en Ukraine. Et puis les nouvelles conclusions du GIEC, le groupement d'experts sur le climat attendu cet après-midi. Vous verrez qu'on est encore très loin des efforts promis par les différents pays pour lutter contre le réchauffement climatique. Juste avant 13h, LVT Midi, votre rendez-vous culture, Monique Younes viendra vous parler du 40e album d'Astérix attendu en octobre prochain. Il y sera question, Pascal, et ça vous intéressera sûrement, de pensées positives.
On parlera évidemment de tous ces sujets à 13h dans Les Auditeurs ont la parole, 32-10 pour dialoguer jusqu'à 14h30 et évidemment nous serons positifs.
Toujours. La météo positive peut-être elle aussi à la
elle
fin.
Elle est taquine,
du...
elle revient avec. Elle est taquine, elle est en pleine forme.
Ouais, faut pas s'endormir.
Jamais. Louis, la météo pour cet après-midi.
Avec donc du soleil dans la plupart des régions. Je vois les images satellites. C'est peut-être encore un petit peu mieux que ce que j'ai annoncé ce matin, sauf dans le nord-ouest. Comme prévu, on a nuages et pluie.
Merci Louis. Les prévisions complètes évidemment à la fin du journal.
RTL Midi.
Tombera ou pas, l'avenir du gouvernement d'Elisabeth Borne se jouera à partir de 16h à l'Assemblée nationale avec l'examen des deux motions de censure, conséquence du recours au 49-3 par le gouvernement pour faire passer la réforme des retraites. À quelques heures du vote, les opposants au texte multiplient les actions, notamment pour faire pression sur les députés qui voteront ce soir. C'était le cas ce matin, Lunéville en Meurthe-et-Moselle, devant la permanence d'un député LR. Aurélien Robert est secrétaire général CGT Cheminot, section Blainville d'Ameleville.
On a mis quelques affiches 60 ans pour qu'il entende qu'on est là, pour que ça remonte un petit peu à Paris, là où il se prépare à voter, et qu'il tremble un peu et qu'il se dise que voilà, il y a du monde en bas, attention à ce que je vais faire parce que si je le fais mal, peut-être qu'ils vont revenir. Et oui, oui, on va revenir. On aurait peut-être pu, moi, échanger avec un assistant parlementaire, mais on a bien compris qu'il faisait la sourde oreille et qu'il refusait le dialogue, comme d'habitude. C'est la ligne dure de la droite. Donc oui, ils sont pour la retraite à 65 ans de leur côté. Donc nous, on doit leur mettre la pression pour que nous, c'est la retraite à 60 ans et 50 ans pour les métiers les plus pénibles.
En propos recueilli pour RTL par Dimitri Ramelot, des députés sous pression dans leur circonscription, vous l'entendez à quelques heures donc maintenant du vote des motions de censure déposées par les groupes Liotte et RN. Bonjour Thomas Després.
Bonjour.
On vous retrouve en direct de l'Assemblée nationale avec, on l'imagine aujourd'hui, une certaine fébrilité dans les rangs de la majorité.
Oui, alors pas tant sur le vote, hein, parce qu'on le dit depuis midi, aucune des deux motions de censure n'a de réelles chances d'aboutir, mais c'est bien la suite qui interroge, à commencer par l'avenir de la première ministre. Elisabeth Borne va-t-elle pouvoir rester à Matignon? Quelle que soit l'issue de cet après-midi, certains députés en doutent et réclament même un remaniement. Je serai elle, je démissionnerai dès ce soir pour être renommée dans la foulée, soufflé ce week-end un ministre. Autre source de fébrilité, le silence d'Emmanuel Macron. Dans la majorité, on a noté que le président ne s'est pas montré en public depuis jeudi matin, c'était avant l'usage du 49-3 et c'était devant des diplomates. Il doit prendre la parole pour fixer un cap, réclame un parlementaire. Du côté des proches du chef de l'État, on confirme bien qu'une prise de parole est à l'étude dans les prochains jours, mais sans dire quand et surtout pour dire quoi. Là-dessus, mystère et boule de gomme.
Merci Thomas Després. On vous retrouvera dans une dizaine de minutes avec Marie-Bénédicte Haller pour parler de l'avenir du texte si la motion de censure n'était pas adoptée ce soir. Il passera par le Conseil constitutionnel et tout ça alors que la mobilisation se poursuit. On rappelle qu'une nouvelle grande journée d'action est d'ores et déjà annoncée pour jeudi.
La mobilisation contre la réforme, elle se poursuit, émaillée d'incidents.
Oui, c'était le cas encore hier soir à Paris, dans le quartier des Halles, avec 34 interpellations d'après la police. À Lyon, cette fois, on compte déjà une cinquantaine d'interpellations depuis vendredi dernier. Une cinquantaine d'interpellations, mais pour quelle suite judiciaire, Frédéric Perruche ?
Écoutez, selon nos informations, l'issue de deux soirées d'émeutes en centre-ville et sur le quartier de la Croix-Rousse, sur les 53 interpellations effectuées vendredi et samedi soir, ce sont 13 personnes, de jeunes, voire de très jeunes casseurs anarchistes ou de l'ultra-gauche lyonnaise, qui font l'objet de poursuites pénales. Dans le détail, 5 manifestants seront jugés en juillet et août prochains pour des faits de violence sur des fonctionnaires de police par jet de projectiles. En attendant leur procès, 3 sont placés sous bracelet électronique, les 2 autres sous contrôle judiciaire. 2 autres casseurs vont comparaître devant un tribunal correctionnel dans les semaines qui viennent pour participation à une manifestation avec dissimulation du visage en vue de la préparation de violences ou de dégradations. Un mineur est également renvoyé devant un juge des enfants pour les mêmes faits. Enfin, 5 personnes seront entendues par un tribunal de police pour avoir participé à une manifestation illicite. Quant aux faits les plus graves, le début d'incendie et le saccage de la mairie du 4e arrondissement et les destructions de nombreux commerces à proximité, agences immobilières, bancaires ou assurances, l'enquête est toujours en cours. Aucune interpellation pour l'instant.
Frédéric Perruche à Lyon, donc pour RTL. Une femme est morte ce matin, tuée de plusieurs coups de couteau à la gorge dans le hall de son immeuble dans le 12e arrondissement de Paris. Son compagnon, un homme de 47 ans, a été interpellé peu de temps après.
RTL Midi. À l'étranger, le président chinois Xi Jinping est arrivé à Moscou.
C'est sa première visite en Russie depuis le début de la guerre en Ukraine. Visite d'État au cours de laquelle Xi Jinping rencontrera son homologue Vladimir Poutine. De quoi sceller encore un peu plus l'alliance entre les deux pays, Hugo Aubry.
Le ton a été donné dès l'arrivée, il y a moins d'une heure, du président chinois à Moscou. Xi Jinping a assuré que cette visite allait donner un nouvel élan aux relations entre la Chine et la Russie. Un nouveau partenariat stratégique sera signé lors de cette visite de 3 jours. Et Moscou évoque même un projet de coopération militaire. Xi Jinping, qui retrouve pour la 40e fois en 10 ans son vieil ami Vladimir Poutine, c'est comme ça qu'il l'appelle, a assuré que les deux pays sont des partenaires fiables. Il ne faut pas s'attendre donc à une remise en cause du soutien chinois à la politique russe. La Chine s'oppose d'ailleurs au mandat d'arrêt pour crime de guerre lancé par la Cour pénale internationale contre le président russe. Xi Jinping, qui dit venir à Moscou en homme de paix, avec dans ses bagages son plan pour mettre un terme au conflit en Ukraine. Pékin appelle au dialogue et au respect de l'intégrité territoriale de tous les pays. Xi Jinping pourrait ensuite s'entretenir par téléphone à l'issue de cette visite et pour la première fois avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Hugo Aubry, correspondant de RTL en Chine.
Et puis le GIEC, le groupement intergouvernemental d'experts sur le climat, publiera en début d'après-midi son diagnostic et son ordonnance pour les années à venir.
Une synthèse de 8 ans de travaux, le dernier consensus scientifique sur le très sensible sujet du changement climatique. Virginie Garin, un peu de suspense sur le fond du propos. On est encore loin, trop loin des objectifs qui avaient été fixés.
Oui, alors pour que la planète reste vivable à peu près partout, il faudrait que la hausse moyenne des températures ne dépasse pas 1,5 degré par rapport au 19e siècle. On en est déjà à 1,1 et on voit toutes les conséquences. Alors si on appliquait toutes les promesses faites par les États lors des COP, hein, ces fameuses conférences sur le climat, si on faisait déjà ce qu'on a dit, ben pour l'instant, on est plutôt sur une trajectoire de 3 degrés. Là, ça veut dire une grande partie des États insulaires vont disparaître. Pour la France, les étés normaux ressembleront à ceux de l'an dernier, avec la montée des eaux, l'entrée du tunnel sous la Manche, le port du Havre, des parties entières de l'île d'Oléron seront régulièrement sous l'eau. Donc il y a des régions qui ne seront plus habitables. Alors ça, ce serait à 3 degrés. Le problème est que les promesses faites ne sont pas respectées et qu'on file tout droit pour l'instant vers 5 degrés de plus en 2100.
Il n'y a pas un espoir quand même d'inverser la tendance, Virginie ?
Alors si, ce fameux 1,5 degré, il est encore possible à atteindre, mais il faut vraiment changer d'urgence nos modes de vie. Il faudrait réduire nos émissions de gaz à effet de serre, dit le GIEC, pratiquement de moitié en 7 ans. C'est plutôt mal parti quand on sait que l'an dernier, les émissions mondiales ont continué d'augmenter.
Virginie Garin pour RTL. Plus léger, le sport et le football avec le début du rassemblement des Bleus à Clairefontaine. Trois nouveaux, Brice Samba, Kefren Thuram et Jean-Claire Todibo, convoqués par Didier Deschamps en vue des deux premiers matchs des éliminatoires de l'Euro 2024. Ce sera contre les Pays-Bas vendredi soir et en Irlande lundi prochain.
Et a priori, le président Macron était annoncé à ce rendez-vous et ce sera intéressant de voir s'il va vendredi soir au Stade de France.
On surveillera ça. Louis, vous y serez, vous, au Stade de France ?
Ah, j'aurais bien aimé, mais non, je n'y serai pas. Je travaillerai.
Et il fera quel temps ? Non, et je plaisante. D'abord pour cet après-midi. Ouais,
oui, 22h et minuit.
Je sortirai, oui, de ma maison d'en face. Avec donc pour aujourd'hui encore beaucoup de soleil hein, sur les régions du sud. Du soleil également dans la moitié nord, on va dire de belles éclaircies. Alors sauf dans le nord-ouest, hein, où là je le vois, il y a des passages nuageux, des averses sur la Bretagne, sur l'Ille-et-Vilaine. Il y en a sur le Cotentin, puis ça circulera également sur la Haute-Normandie tout au long de l'après-midi. Menace donc de quelques averses entre le nord de la Bretagne et le Nord-Pas-de-Calais. Et dans les autres régions, donc maintien de ce temps sec et plutôt ensoleillé. Ciel bleu même dans le sud, sauf encore. Là aussi, on aura un peu d'instabilité avec un risque d'averse, voire d'orage. Les températures, elles, à peu près de saison. Printanière, donc 12 à 15 degrés dans la moitié nord, 15 à 19 degrés dans le sud et 20 degrés même du côté de Perpignan.
Merci beaucoup, Louis.
Tout savoir sur les motions de censure qui, paraît-il, n'ont aucune chance de passer avec Thomas Després dans une seconde et Marie-Bénédicte Allaire. À tout de suite.
RTL Midi. Céline Landreau et Pascal Praud. RTL Midi. Pascal Praud et Céline Landreau.
Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement.
Elisabeth Borne face aux députés qui engageaient donc la responsabilité de son gouvernement en utilisant le 49-3 pour faire passer la très contestée réforme des retraites. Des motions de censure seront donc débattues puis votées cet après-midi à l'Assemblée nationale. Pour en parler avec nous en direct de l'Assemblée, Marie-Bénédicte Allaire et Thomas Després. Rebonjour à tous les deux.
Rebonjour.
Rebonjour.
D'abord, est-ce qu'il y a une vraie chance que le gouvernement, ou un vrai risque, que le gouvernement soit renversé ce soir ?
Bah écoutez, sauf grosse surprise, le gouvernement ne court pas de risque. Mais ça va se jouer probablement à une quinzaine de voix, entre 15 et 20 voix. Ce sera sans doute le vote de censure le plus serré hein, qu'Elisabeth Borne ait eu à affronter. Mais pour que la censure passe, il faudrait une trentaine de voix les Républicains. Et selon les derniers décomptes, ils seront plutôt 17 ou 18 à la voter, ce qu'ils veulent, donner un coup de semonce au gouvernement sur sa méthode.
On rappelle qu'il n'y a eu qu'une seule motion de censure votée en France, c'était en 62 sous la Ve République.
Hein. Ben, oui, absolument.
Si le gouvernement n'est pas renversé, qu'est-ce qui va se passer ? Une nouvelle journée de mobilisation est déjà annoncée jeudi. La grève continue dans les transports, dans les raffineries. L'exécutif mise sur l'essoufflement ?
Oui, en réalité, on ne croit pas beaucoup hein, dans les ministères que le mouvement va se poursuivre. On préfère aujourd'hui insister sur le fait que ce serait essentiellement des militants d'extrême gauche. On s'y attendait, m'écrivait même ce week-end un ministre, avec un espoir, oui, que les syndicats finissent par se désolidariser des actions les plus violentes. Comment sortir de là sans être abîmé par l'image des casseurs, ajoute même ce ministre.
Si la réforme passe par 49-3 ce soir, l'avenir du texte n'est pas scellé pour autant. Il faudra passer encore le tamis du Conseil constitutionnel.
Oui, tout à fait. Plusieurs groupes d'opposition ont annoncé qu'ils allaient saisir le Conseil constitutionnel. Et il est effectivement possible que les sages retoquent une partie du texte. Certaines mesures comme l'index senior, par exemple, pourraient être considérées comme hors sujet dans un projet de loi de finances rectificative de la Sécurité sociale. Et il y a même certains constitutionnalistes qui n'excluent pas que la totalité du projet soit censurée par le Conseil constitutionnel.
Et ça, c'est quel délai, Marie-Bénédicte ?
Alors là, vous me posez une petite colle. Thomas doit savoir.
Je crois que le Conseil constitutionnel a simplement un mois pour se prononcer.
Exactement, le Conseil constitutionnel a un mois pour se prononcer dès lors qu'il y a eu un recours. Alors qu'on imagine que les recours, ils sont déjà prêts. Hein, dans les groupes de gauche, on a déjà préparé les recours. Donc dès qu'ils sont déposés, top, on compte un mois. Et au bout d'un mois, il est forcé de donner son avis.
Et la conséquence, si le projet est retoqué, c'est qu'on repart à zéro. Nous sommes d'accord.
Ah oui, là, on repart à zéro. Et très franchement, je ne suis pas certain que le gouvernement aura vraiment envie de se relancer dans une réforme des retraites tout de suite.
Oui.
Bon, on l'a déjà dit, la mobilisation, elle se poursuit hein, malgré le 49-3. Il y a une nouvelle grande journée d'action jeudi. Après une crise politique pareille, quid de l'avenir du quinquennat, que la réforme passe ou pas d'ailleurs?
C'est toute la question qui habite la majorité depuis ce week-end, hein, parce que très clairement, depuis jeudi, le quinquennat, il est comme à l'arrêt, mis sur pause. Alors, il y a bien des textes qui sont dans les cartons, hein, une réforme du travail ou encore un texte sur l'immigration, mais chacun a bien conscience qu'il y aura un avant et un après. Alors, première interrogation, Elisabeth Borne sera-t-elle aux manettes de la suite du quinquennat? On a appris ce matin que pour montrer qu'elle continue d'être aux affaires, elle réunira demain midi plusieurs ministres de premier plan à déjeuner pour occuper le terrain et montrer aussi qu'elle prépare la suite. Et la deuxième interrogation concerne Emmanuel Macron quand même. On sait qu'il n'aime pas la pression, mais ses proches le poussent à dire de quoi sera fait la suite. Quelle réforme? Il avait promis plus d'horizontalité pendant sa campagne, souffle un conseiller, avec ce slogan, hein, avec vous, c'est peut-être le moment de s'y mettre.
Alors dernière chose, quand est-ce que le président va parler? Parce que je crois que c'est Jordan Bardella qui parlait d'alerte enlèvement.
Le président du Rassemblement National.
Exactement, on n'a pas entendu Emmanuel Macron s'exprimer sur les retraites. Est-ce qu'une intervention est prévue? Sous quelle forme? Est-ce que vous avez des réponses à ces questions?
Alors, à l'Élysée, oui, on confirme bien qu'une intervention est prévue, qu'Emmanuel Macron la prépare. La question, c'est de savoir quand. Avec quand même quelques petites contraintes d'agenda, Emmanuel Macron, il est attendu à partir de mercredi soir pour deux jours à Bruxelles pour le Conseil européen. Ensuite, il recevra à partir de dimanche le roi d'Angleterre pour une visite d'État sur quatre jours. Donc, le calendrier...
Au milieu des poubelles ?
Pour le moment, la visite est maintenue. Et donc, oui,
c'est un risque aussi, ça. Parce que c'est une pression possible sur Emmanuel Macron que des manifestations aient lieu lorsque le roi Charles III est présent sur le sol de Paris.
Bien sûr que c'est un sujet. Alors, normalement, dans une visite d'État, on rencontre le maire de Paris. Alors là, cette fois-ci, il n'y aura pas de visite de prévue avec Anne Hidalgo. Donc, il ne pourra pas lui dire ce qu'il en pense. Mais
il ira voir Pierre Perret.
Ce qui a fait une chanson, vous parlez de ça, Pascal.
Bien sûr.
Donc la question de savoir quand Emmanuel Macron parle, éventuellement ce soir, mais il y a peu de chance, peut-être demain mardi ou alors mercredi, sinon ce sera la semaine prochaine.
Merci Thomas, merci Marie-Bénédicte. On rappelle que ces motions de censure, elles seront débattues puis votées à partir de 16h à l'Assemblée nationale cet après-midi. Et on suivra ça évidemment de très près sur RTL dans tous vos rendez-vous d'information. Merci à tous les deux.
Et dans un instant, on va parler d'Astérix. Alors cette fois-ci, ce n'est pas un nouveau film, mais on retrouve les fondamentaux puisque c'est le prochain album d'Astérix. Et c'est Monique Younès qui nous en parle. À tout de suite.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. RTL. Laissez-vous tenter midi.
La culture se met à table tous les jours dans RTL Midi. Aujourd'hui, en attendant que le ciel ne nous tombe ou pas sur la tête, référence à ce qu'en doute ce que pensaient les Gaulois, on va parler d'Astérix.
Car on en sait un peu plus sur le 40e album des aventures de nos Gaulois préférés. Bonjour Monique Younès.
Bonjour.
Album qui va paraître en octobre prochain et dont on connaît désormais le titre, L'Iris Blanc.
Oui, ça sonne bien, L'Iris Blanc. Et pourquoi L'Iris Blanc? Parce que cette fleur... Attends. Est le symbole de la bienveillance et de l'épanouissement dans plusieurs civilisations, notamment la civilisation romaine. Et c'est bien d'épanouissement personnel dont il s'agit dans ce 40e album d'Astérix. C'est le choix du nouveau scénariste d'Astérix, le génial Fab Caro. Vous connaissez Fab Caro ?
Je suis assez inculte en bande dessinée.
Alors, sachez que c'est un des auteurs les plus prolifiques de la bande dessinée, pas uniquement de la bande dessinée, de la littérature. Vous avez vu le film Le Discours ?
Oui, je l'ai vu, Le Discours.
Eh bien, alors, c'est adapté du roman de Fab Caro et sa plus grande bande dessinée, Zaï 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 Zaï, est déjà vendue à plus de 500 000 exemplaires. Donc, vous voyez un peu qui est Fab Caro et il va nous dire pourquoi L'Iris Blanc ?
Uderzo et Goscinny faisaient pas mal ça dans leurs albums. Ils s'amusaient à traiter les thématiques contemporaines de manière un petit peu détournée, comme ça, comme le capitalisme dans Obélix et compagnie. C'est quoi l'immobilier sauvage un petit peu dans le domaine des dieux. Je me suis dit que ouais, c'était peut-être l'occasion de parler d'un truc un petit peu contemporain, un petit peu en vogue ces dernières années.
Est-ce que Fab Caro, dont je ne connaissais pas le nom il y a quelques secondes, est adepte de ces méthodes d'épanouissement personnel ?
Alors non, mais il respecte les convenances de chacun et il aime bien se moquer un peu des travers de ces méthodes épanouissantes. Dans L'Iris Blanc, qui paraîtra donc le 26 octobre prochain et qui sera édité à 5 millions d'exemplaires, Fab Caro a donc imaginé un Jules César à bout de nerfs, excédé par ses légionnaires, constamment vaincu par les Gaulois. Et la seule solution qu'il ait trouvée, c'est... Alors la positive attitude qui était en vogue même en 85 avant Jésus-Christ.
Bien avant Laurie.
Vous voyez bien, l'Iris Blanc est donc une méthode qui apprend aux légionnaires de César à reprendre confiance en eux, en commençant par évacuer leur peur, puis en voyant du positif et de la bienveillance dans chaque chose et en toutes circonstances. Alors la clé de la méthode, une hygiène de vie impeccable, nourriture saine, exercice physique adapté. Et cette méthode de bien-être va évidemment arriver jusqu'au fameux village gaulois dont les autorités ne savent plus quelle attitude adopter, au point qu'on se bagarre au sein même des familles. Prenez l'exemple du chef du village Abraham à Coursix. Il ne veut pas entendre parler de cet Iris Blanc dont sa femme Bonne raffole.
Je trouve qu'ils ont une relation très très attachante tous les deux. J'adore le tempérament de Bonne Mine. C'est un caractère très fort. C'est la femme du chef et le chef, il se doit d'avoir une posture en apparence très autoritaire alors qu'au fond, il est un petit peu balbutiant devant Bonne Mine. Et c'est finalement elle qui tient tout et qui a une personnalité très forte. Et elle est vive d'esprit, elle est intelligente et puis elle est plus responsable finalement que son mari qui est censé être le chef du village.
Donc on comprend que Bonne Mine adhère. Quid d'Astérix et Obélix, ils deviennent adeptes, eux aussi ?
Alors, vous connaissez les Gaulois qui sont pour la plupart hédonistes, épicuriens et excessifs, avec un goût prononcé pour la bagarre et un appétit insatiable pour les sangliers. Alors, quand ils entendent Bonne Mine leur dire « Mangez avec parcimonie, votre corps vous dira merci », ils ont du mal à comprendre. Quant à Astérix et Obélix, ils sont toujours un peu distants, vous savez, par rapport aux nouveautés qui apparaissent dans le village. Astérix ne connaît de Ying et de Yang que le courage et la ruse. C'est le héros parfait, notre héros national, rappelons-nous. Et pendant ce temps-là, Obélix reste dans sa bulle. Fab Caro est tombé littéralement amoureux d'Obélix, mais c'est avec beaucoup de retenue qu'il m'en a parlé.
Ce que j'aime chez Obélix, c'est ce côté enfantin qui glisse un petit peu sur les événements. C'est quelqu'un de positif déjà par nature, Obélix. Et finalement, c'est lui qui apporte toute la dimension comédie dans Astérix. Parce que Astérix en soi, lui, il est pas tellement rigolo. Donc toute la partie un petit peu drôle, elle passe par Obélix. Donc je me suis énormément amusé avec Obélix. J'avais envie vraiment, ouais, de le faire exister vraiment, qu'il soit pas juste là comme un faire-valoir. Et puis sur ce coup-là, je me suis amusé aussi avec Abraham Coursix, globalement qui est pas trop exploité. Là, pareil, il a une petite place aussi. Je me suis bien amusé avec lui aussi.
Alors, en écrivant le scénario de cet album, Fab Caro a appris à connaître les personnages d'Astérix et Obélix en profondeur. Aujourd'hui, ce sont ses amis, il s'amuse avec eux, sans oublier malgré tout le cahier des charges donné aux femmes, la place qui leur revient, on ne peut plus faire autrement aujourd'hui. Son interview complète est à écouter sur notre site internet rtl.fr. L'album ne sera pas dans les bacs avant octobre prochain. Et ça sera, tenez-vous bien, le 64e anniversaire de la naissance d'Astérix et Obélix. 64, oui, un chiffre qui fâche aujourd'hui. Mais vu la forme de nos deux héros, je n'ai pas l'impression que la retraite soit à l'ordre du jour du côté des éditions Albert René.
Merci beaucoup Monique Younes.
Et on en vend combien à chaque fois des albums Astérix ?
Mais quand je vous dis 5 millions, c'est 5 millions. Hein.
Ah oui,
mais oui.
5 millions en France ou avec les traductions ?
5 millions en Europe, c'est-à-dire en langue française. Après, il y aura toutes les langues possibles et imaginables avec les dialectes. C'est
donc,
énorme, Astérix.
Donc c'est jackpot.
Énorme.
Et 12h58, les auditeurs arrivent. À tout de suite.
Ils seront 5 millions aussi.
Votre avis compte.
Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
50 centimes la minute.
RTL.
Eh bien, figurez-vous qu'il est 13h pile.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
La motion de censure, le 49-3, la séquence que nous vivons qui est particulière, le gouvernement doit-il démissionner ? Nous sommes avec Mohamed, bonjour, qui est chauffeur de taxi à Rosny-sous-Bois.
Bonjour Pascal.
Bonjour, votre avis ?
Ah ben oui, et le gouvernement doit démissionner parce qu'il ne respecte plus les Français. Point.
Oui, c'est entendu, mais on va en parler ensemble parce qu'on arrive sur un chapitre qui est toujours difficile entre la légalité et la légitimité. Céline Landreau nous rappelle les titres.
Tombera ou pas, le gouvernement sera fixé en fin d'après-midi alors que deux motions de censure seront votées à l'Assemblée nationale après le recours au 49-3 pour faire passer la très contestée réforme des retraites et alors que les actions des opposants se multiplient encore. La grève continue dans les raffineries mais aussi à la SNCF où le trafic reste perturbé aujourd'hui en attendant la nouvelle grande journée de mobilisation annoncée pour jeudi prochain. Coup d'envoi du bac cet après-midi pour 536 élèves de terminale, épreuve de spécialité pour les élèves des filières générales et technologiques, des épreuves dont les notes, et c'est une première, compteront donc pour Parcoursup. Et puis l'actualité à l'étranger, c'est la visite d'État de Xi Jinping à Moscou, première visite du président chinois en Russie depuis le début de la guerre en Ukraine. Le printemps arrive, ce sera ce soir un peu après 22h, mais... Dans les faits, c'est presque déjà un petit peu cet après-midi, Louis. Peu,
c'est vrai, sur les trois quarts sud de la France, hein, ça sera plutôt ensoleillé cet après-midi, sans précipitations et avec des températures à peu près de saison. Bon, c'est vrai que dans le nord-ouest, ça sera un peu moins bien, avec là des passages nuageux et même quelques pluies, hein, c'est déjà le cas sur le nord de la Bretagne, le Cotentin. Cet après-midi, c'est surtout le littoral de la Manche qu'il y aura ce risque de pluie, avec donc des nuages un peu plus nombreux qui pourraient déborder même vers l'Île-de-France ou encore une partie de la Champagne en cours d'après-midi. Les températures, donc, de saison, y compris dans la moitié nord, 12 à 15 degrés au moins, 15 à 19 degrés dans le sud et jusqu'à 20 degrés à Perpignan.
Et demain, Louis ?
C'est à peu près la même chose, avec des passages nuageux dans la moitié nord, parfois un peu plus denses, parfois accompagnés de quelques pluies, mais ça ne durera pas longtemps. Toujours du soleil dans le sud, les températures sans grand changement. Bon, il faudra profiter de ces deux journées, parce qu'à partir de mercredi, la pluie va revenir en force, hein, quasiment une perturbation par jour, jusqu'en fin de semaine, notamment dans la moitié nord.
Merci beaucoup, Louis.
Ce qui est sans doute une bonne chose.
C'est une très bonne nouvelle. Ça va se rééquilibrer petit à petit, les précipitations.
J'aime votre sagesse que je peux décoder à demi-mot. Merci, cher Louis Baudin. Merci à Céline. Votre retour s'est bien passé ?
Bah, c'était très agréable.
Vous avez pris quelques jours de... Mais bien sûr, vous avez pris quelques jours de vacances. Vous êtes reposé ?
Je vais regarder, je suis en pleine forme.
Vous nous écoutiez ?
Un petit peu.
Bon, je ne poursuivrai donc pas cette conversation.
J'ai pas écouté toute la semaine, j'ai écouté les premiers jours, le temps du sevrage, vous savez ce que c'est, Pascal. C'est difficile. De...
Et je salue Arnaud Mulpa également, qui était à la rédaction en chef de ce 12-13. Nous partons donc avec les auditeurs, on est avec Mohamed.